l'intégral tour jusqu'à 21h avant l'after aussi, vous le savez. 21h, 23h, c'est comme ça tout l'été, évidemment. Au programme, le rugby à 7 qualifié pour les Jeux Olympiques. Et puis du foot, on sera avec Roland Courbis, qu'on connaît bien sur RMC, entraîneur de Montpellier en pleine préparation. Il est 20h01 sur RMC. Thierry Bourguignon, Luc Leblanc et votre demi-heure au 32-16 ou sur le hashtag RMC Live pour poser vos questions.
Je peux te demander un petit truc.
Vas-y,
en direct.
Vas-y,
on est en direct. Tu peux me libérer un petit peu avant, hein, parce qu'on a 700 bornes à faire.
T'as la permission, tu t'en vas tout de suite.
Journée de repos à Pau. On verra, Luc. On a le
après
temps.
Après avoir sorti la gamelle de du druide.
Il faudra être très brillant sur les premières questions. De toute façon, on est ensemble jusqu'à 20h30 avant de prendre au 32-16 Nicolas. Dans quelques instants, juste, je vais rappeler quand même le classement de l'étape pour ceux qui nous rejoignent contre la montre par l'équipe, 28 km. BMC, l'équipe de Van Garderen qui s'impose avec une seconde. On va arrondir, c'est 62 centièmes et on va l'arrondir à une seconde devant l'équipe Sky de Chris Froome. La Movistar de Quintana, 4 secondes. Tinkoff de Contador à 28 secondes. Astana de Nibali à 35. AG2R La Mondiale de Bardet-Perrault à 1.24, la FDJ à 1.33 avec Thibaut Pinot, puis l'équipe Giant de Barguil à 1.37. Thierry Lucho, je donne quand même le classement général parce que ça a son importance avant l'étape de mardi, la première étape de haute montagne. Chris Froome avec 12 secondes d'avance sur Vanguard-Ren. Contador est 5e à 1.03, Valverde à 1.50, Quintana à 1.59, Nibali à 2.22, Barguil à 2.43, Perrault à 3.30, Bardet à 4.38 et Pinot à 8.05. On a Nicolas au 32-16. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Lucho est parti ou pas?
Non, je suis là. On va le garder. Je pars.
Il n'y a pas de bonne sortie
dans cette émission.
Je tenais, jusqu'au bout en peloton. Je tenais en tout cas à le féliciter pour son prono pour Alexis Vermouz, sa victoire à Mur. D'ailleurs, Merci. Je voulais savoir si Lucho, t'avais bien trouvé ton hôtel vendredi soir. Si tu nous as fait un petit coup de fringale là, et puis on est venu t'apporter un petit sandwich.
C'est gentil. Franchement, merci. Ça a été vraiment sympa. Je suis tombé sur deux mecs extraordinaires qui. Je cherchais mon hôtel. Je regardais mon GPS dans la voiture, et puis ils ont été chez eux et par surprise, ils m'ont emmené deux sandwichs, une bouteille d'eau. Super sympa. Merci encore.
Bon. Ça fait plaisir. Non, mais c'était super. Bon, et nickel, hein, bon pronostic hein, sur la victoire de Vermouz. Et moi, je voulais savoir ce que tu pensais de ce petit Barguil. Est-ce que tu penses qu'il va pouvoir nous faire un petit top 10 et pourquoi pas une victoire dans les Pyrénées?
14e au général pour l'instant à 2.43 Barguil.
Oui, mais comme on le disait tout à l'heure, il y en a 7 ou 8 qui vont sauter, qui sont devant lui au classement général dans la montagne. Oui, bien sûr, il peut espérer un top 10. Déjà, il a prouvé par le passé qu'il était capable de faire des très très bons grands tours. Il a gagné des étapes sur le Giro, si je me rappelle bien. Donc non, c'est Barguil, c'est vraiment un grand espoir français. Et je pense qu'il va créer une belle surprise en montagne. Peut-être pas accrocher les meilleurs, les Froome, les Contador et les Quintana, mais ceci dit, il sera pas loin et on peut compter sur lui, ouais.
Ouais, tu le vois peut-être faire une victoire.
J'aimerais bien, oui. Je pense qu'il a la possibilité, oui, parce que bon, aujourd'hui, il faut pas se fier à la performance d'aujourd'hui, parce que c'est un contre-la-montre par équipe, donc voilà, il est dépendant de ses coéquipiers et c'est jamais facile de pouvoir faire un contre-la-montre et puis de perdre ce qu'il a perdu aujourd'hui, malheureusement, ça le handicape un petit peu. Il a rétrogradé au classement général, mais ceci dit, il peut revenir vite dans le top 10 dans les prochains jours, ouais.
Thierry, tu en penses quoi, toi, de Warren Barguil?
Barguil, il peut faire une super fin de tour. Il a 2 semaines pour s'exprimer sur son terrain de prédilection. Et maintenant, pour gagner une étape, ça peut être un peu compliqué puisqu'il est déjà placé au général et qu'il sera surveillé des 4 fantastiques et des meilleurs. Donc, pourquoi pas, s'il a la jambe, il est capable de le faire. Largement, même.
Bon, mais on suivra ça. Merci Nicolas de nous avoir appelé.
T'es pas très enthousiaste, hein, Thierry.
Mais merci
Nico, hein, merci ouais, encore.
Merci,
hein,
Nicolas,
c'est vraiment
à bientôt.
Sympa.
Au revoir.
À bientôt.
Et j'attends de voir. Tu sais, il y a un tour qui recommence. Il y a un autre tour qui commence à partir de mardi. Et on verra, même si on sait qu'il est capable de faire des super trucs. il n'a pas gagné de grandes étapes dans
c'est pas sur le Giro, c'est sur la Vuelta qu'il a gagné.
Exactement. Toi, RMC Live qui nous précise ça aussi.
Et là, en plus, il est arrivé, avec un sprinter, en plus, et il est un gars qui va vite sur sprint et qui a pas pu l'avoir, disons.
Manu, au 32-16. Bonsoir, Manu.
Oui, bonsoir, messieurs. Bonsoir aux auditeurs d'RMC et auditrices.
Bonsoir, Manu.
Comment allez-vous, messieurs?
Eh ben, écoute, nous, ça va bien, hein. Ça va bien. On fait une grosse étape aujourd'hui, même ce soir, jusqu'à 5h du matin, mais ça va aller, hein.
En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, ça va mieux que Thibaut Pinot, on est bien d'accord.
Ah oui. Ça, c'est sûr.
Bon. 29e à 8.05, Thibaut Pinot.
Alors, justement, moi, je voulais aborder avec vous quelles sont les ambitions légitimes, je dis bien ambitions légitimes, que Thibaut peut avoir sur ce nouveau tour. Parce que, je l'ai dit, Thierry l'a dit tout à l'heure, on entame un nouveau tour à partir de mardi le 14 juillet avec les étapes de montagne. Thibaut, voilà, il a eu, je pense, une semaine très délicate. Le moral a pris un coup, mais il a quand même la pancarte du troisième du tour 2014. Il va aller chercher quoi? Il va aller chercher un top 5, il va aller chercher un maillot à poids, une victoire d'étape.
Déjà, l'objectif pour Thibaut, c'est de se soigner.
Oui, voilà.
C'est de ne plus avoir sa petite bronchite et son mal de genou. Après, il pourra se dire et se poser la question de savoir ce qu'il va faire sur la suite de son Tour de France. Ça, c'est déjà la première chose. Après, s'il se soigne et s'il est bien, une étape, c'est peut-être l'objectif pour lui, parce qu'à la limite de rentrer dans le top 10, personne s'en rappellera. Il vaut mieux gagner une étape sur le Tour que de rentrer dans le top 10. Hein.
Entièrement d'accord avec toi, Lucho. Il va falloir qu'il savoir prendre des risques et aller de l'avant. Pour aller chercher le maillot à poids, on le disait tout à l'heure, et puis pourquoi pas une étape, parce qu'ils en sont capables.
Ouais.
Même s'il y a la pancarte de troisième du tour.
Mais est-ce qu'on le laisse partir ou pas, Pinot, quand il a eu voilà.
Oui, mais quand on a un passé, ok, on a le passé de l'année dernière, mais on est quand même loin au général. Donc après, les équipes vont gérer derrière. C'est pas un gros problème.
Est-ce que pour vous, 8 minutes, c'est rédhibitoire pour un podium?
Ah bah là, oui. Avec Quintana et Contador et Froome, ça va être difficile. Il ne faut pas rêver. Hein. Il peut faire un coup un jour, mais il ne le fera pas deux fois. Quoi. Ça, c'est
depuis
sûr.
Le début du tour, on le disait, hein, ça risque d'être difficile avec les super grimpeurs qu'on avait au départ du tour. Ouais. Avec Froome, avec Contador, avec Valverde, Quintana, Van Garderen, c'est quand même des gars qui sont pas inaccessibles, loin de là, mais qui sont à l'heure actuelle une jambe au-dessus, c'est clair. Et puis en plus, il a joué de malchance dans la première semaine, et puis aujourd'hui, c'est ce que Luc disait. Bon, ce soir, là, il a une journée de repos, demain, il va prendre le temps de se soigner, de récupérer, de refaire le point avec son équipe sur les objectifs de chacun, et puis de se remettre la tête en ligne pour la suite du tour, c'est tout.
Très bien.
Merci Manu. T'as une autre question?
Non, j'imagine qu'il risque de trouver des alliés de circonstance à la personne, je pense notamment à Nibali, qui va aussi devoir se réveiller pour essayer de bousculer la hiérarchie. Hein.
Mais Nibali, il n'aura pas le bon de sortie.
Ouais, mais de toute façon, il y en a beaucoup sur ce tour. Moi, je suis persuadé qu'on va se faire plaisir dans les deux semaines qui arrivent, là, parce que il va falloir que même les meilleurs prennent des risques. Et n'attendent pas la dernière montée comme on a vu par le passé, parce que ça ne suffira pas pour mettre en difficulté Froome. Donc c'est sûr, il y a un concours de circonstances qui vont faire que il y a des alliances de circonstances qui vont se former, parce que s'ils attendent gentiment de suivre Froome, attendre la défaillance de Froome, on a vu par le passé que il en a jamais eu. Hein.
Ouais, donc des belles étapes en perspective.
Oui, il y aura des belles étapes, ça va être dynamique.
Merci Manu de nous avoir appelé au 32-16.
Merci Manu.
À très vite. 20h10 sur RMC, vous voulez poser vos questions à Thierry Bourguignon, Luc Leblanc, le 32-16 ou alors le hashtag RMC Live.
RMC Intégral Tour, Martial Fernandez.
20h11 sur RMC, Thierry Bourguignon, Luc Leblanc avec nous pour répondre à vos questions au 32-16 ou sur le hashtag RMC Live. Tiens, dans quelques minutes après la page Tour de France, On aura des qualifiés pour les Jeux Olympiques. L'équipe de France de rugby à 7 qui vient à l'instant de remporter le tournoi européen d'Exeter. Et l'équipe de France masculine de rugby à 7 ira à Rio aux Jeux Olympiques. Comme il y a 3 semaines, les filles s'étaient qualifiées. On aura donc 2 équipes de France au JO. C'est plutôt une bonne nouvelle. On a Thibaut au 32-16 qui nous a appelé. Thierry Lucho. Bonsoir Thibaut.
Thibaut Pinot.
Non, pas Thibaut Pinot. Thibaut de Toulouse ou de Paris? J'ai pas compris d'ailleurs.
En fait, je travaille à Paris, mais là, je suis en vacances. Je suis de retour chez moi, à Montauban.
Voilà, ouais, je suis Montauban même. Très bien.
Voilà. Non, mais j'ai de la sympathie pour Thibaut Pinot. Voilà, c'est tout. Mais mon préféré, c'est Thomas Vauclair. Et je disais à votre collègue au standard, à Max, que moi, je le voyais bien planté dans les Alpes et dans les Pyrénées. Donc planté, voilà, planté, j'aurais aimé avoir planté, mais c'est-à-dire gagner dans les Alpes et gagner dans les Pyrénées.
Les deux, carrément.
Voilà, ouais, je le... Voilà, donc je me suis dit, je suis peut-être un peu gourmand, donc je vais poser la question à Thierry et à Lucho, quoi.
Ouais, parce que franchement, sur ce qu'il a montré sur ce début de tour et début
il cache
de
bien son jeu, alors Thomas.
Franchement, il a caché sa force. Il a caché sa force et il a tellement caché qu'il a dû la perdre.
Il a du cœur, Thomas Vauclair. On sait très bien qu'il prépare ses coups à l'avance.
Oui, d'accord.
Et donc, je le vois bien avoir gardé des forces qu'il a mis de côté pour bien, bien préparer ses coups. Et je suis sûr qu'il a visé des étapes. Alors, vous dire que s'il va planter aux Alpes, dans les Alpes et dans les Pyrénées, je sais pas, mais il va au moins planter dans un des deux, c'est sûr, dans un des deux massifs. Voilà. C'était mon avis, donc je me suis dit, voilà, je vais poser la question à Lucho et à Thierry. Mais apparemment, vous le voyez nulle part. Donc,
pour moi, je le vois mal barré sur ce Tour de France. Après, c'est vrai que Thomas, chaque fois qu'il a été devant, il a la science de la course et qu'il se rate rarement. Ça, c'est clair. Quand il est devant, il est bon. Sur l'an dernier sur le Tour, il s'est raté un tout petit peu parce que il a pas pointé la bonne personne sur l'échappée des Pyrénées. Mais il est devant. Il a un gros cœur. Il se donne à fond et il va essayer, je pense. Mais sur ce qu'il a montré sur ce début de saison et début de Tour surtout, eh ben je le sens pas très très bien. Je sais pas ce que tu en penses, Lucho, mais.
Bah écoute, oui, non.
Je croyais que t'étais parti, Lucho.
Non,
m'as
non,
fait
non.
Peur. Pleure pas, Lucho.
Comment?
Là, je t'ai senti attristé. Donc, non, ne pleure pas, c'est pas grave si Thomas il gagne pas, mais qu'il se montre au moins. C'est déjà ça.
Il sait se montrer quand il faut, mais c'est vrai qu'il a plus la niaque qu'il avait avant.
Parce que là, pour vous, il est cramé, quoi. Quand je vous entends, il est cramé, quoi.
Bah, il nous a pas montré autre chose.
On va pas dire qu'il est bien, quoi. Il est cramé pour le moment.
Il est en mode réserve, là.
Eh bien, Maïwen sur le hashtag RMC Live. Ouais. Vauclair gagné dans les Pyrénées ou dans les Alpes. Mais oui, grosse blague. Elle est un peu d'accord avec vous.
Ah. Là, elle nous a bien eu. Hein. Mais oui, mais grosse blague.
Bon. Voilà.
On surveillera ça.
On le souhaite.
De toute façon, il va faire un raid dans un groupe, c'est sûr. Après.
C'est comme les Français, on aimerait les voir gagner tous les jours, c'est clair. Et on aurait préféré que plutôt, il y a des auditeurs qui nous disent qu'on critique, mais la critique, non, c'est un constat. Le constat est que les Français sont pas forcément à la fête sur ce début de tour. Et il reste 15 jours pour s'exprimer. C'est vrai qu'ils préfèrent les montagnes que les coups de bordure, et ben qui nous donnent et nous fasse vibrer sur les 2 semaines qui arrivent. C'est clair.
Merci Thibaut.
Bon. À bientôt.
À bientôt, Thibaut.
Et ne pleure pas non plus, toi aussi. Hein.
Bah, quoi, mais je vais essayer, quoi.
Et si Vauclair gagne, tu nous appelles. Hein.
Ouais.
Tu en parles à Thierry Lucho.
Tu nous appelles et tu nous dis, qu'est-ce que je vous avais dit? Voilà. Il a planté.
À bientôt, Thibaut.
À bientôt, au revoir.
T'es en Mbarek sur le hashtag RMC Live. Selon vous, Lucho, Thierry, Nibali, Quintana et Contador, qui ont du retard sur Froome, on l'a dit, ont-ils obligation d'attaquer dès mardi?
Bah, de toute façon, mardi, une montée sèche comme ça. Hein, la Pierre Saint-Martin très dur, mais ça peut être que le
c'est 15 kilomètres à 7,4%.
Oui, avec des passages à 10, plus de 10. Non, c'est vraiment une belle montée. Et moi, je peux vous dire que Froome l'a reconnu avant le tour et a été surpris par le pourcentage qu'il y avait. Il a même dû changer à l'entraînement, changer son braquet. Alors tu vois, j'ai quelques infos et je pense que il doit se dire si les mecs sont mal. Alors le lendemain d'une journée de repos, sur un parcours comme ça, un final comme ça, je peux dire que celui qui l'a un peu en travers, eh ben, il va dégueuler du temps. Il va vraiment dégueuler du temps. Parce que si t'es mal dans une bosse comme ça, une arrivée comme ça, les mecs vont en profiter et ça va être un feu d'artifice. Mais d'ailleurs, c'est le 14 juillet.
Exactement. On a Laurent au 32-16. Bonsoir Laurent.
Oui, bonsoir à toute l'équipe.
Bonsoir.
J'ai été vraiment emballé par la première semaine, c'était super. J'ai une petite crainte pour la deuxième, je ne sais pas si vous la partagez. J'ai peur que Froome, que je vois au-dessus, assomme le tour dès les Pyrénées, quoi. Et puis que dans les Alpes, ben, on se batte plus que pour les deuxièmes et troisièmes places. Quoi.
Ah oui, ben oui.
C'est le risque.
C'est le risque et c'est vrai que c'est quoi, il y a deux ans quand il gagne,
oui.
Plateau de Baie, il a mis tout le monde à l'heure.
Voilà.
Et ouais.
J'ai peur qu'il recommence cette année.
Mais le plateau de Baie, c'est cette semaine mardi. Aussi.
Ouais. Bah, si on fait ça mardi, lui, hein. Ben on va pleurer pendant 15 jours.
Ouais, parce que quand t'adore,
c'est
le
monté pour lui.
C'est oui, montée, oui, c'est une montée pour lui, paye, c'est clair.
Le final, c'est une montée pour lui.
Il va mettre la moulinette clair. En marche.
Voilà.
Ah ouais, ouais.
Et puis, vroom, vroom.
Bon, je pense que Nibali va vite décrocher, mais Contador, il y a Quintana qui peut l'accrocher, qui peut le
rattraper. Quintana, il va nous faire un feu d'artifice.
Ouais, je pense aussi. Ouais,
En plus, les deux Movistars, Valverde, Quintana. Bon, après, il faut qu'ils aient les jambes hein, pour le faire, c'est clair.
Il avait le sourire.
Oui, est-ce que dans l'équipe Movistar, il y a de quoi les poler en montagne?
De toute façon, ils sont déjà deux.
Ouais.
Bah, oui. Deux super grimpeurs.
Bah, ouais, y a Valverde.
Après, les autres vont les accompagner le plus longtemps possible. Mais
y a Valverde,
dans une montée,
tout ça, ouais.
Une montée comme Pierre Saint-Martin, eh ben, c'est chacun sa pomme. Hein.
Oui, c'est sûr. Et puis bon, il reste 15 jours, il peut s'en passer.
Oui. Ouais. Mais bon, croisons les doigts.
Espérons.
Qui n'est pas un des leaders qui écrase le tour dès le premier jour.
Ce serait dommage.
C'est clair. Que ce soit Froome ou autre chose.
Merci.
Merci. Allez,
au revoir. Merci.
Bonne soirée à tous. Au revoir.
Bonsoir.
Au revoir. On a Alain au 32-16. Thierry Bourguignon, Luccio, Luc Leblanc. Alain, bonsoir.
Oui, bonsoir. En fait, je voulais. C'était dans la prolongation de la suite de votre auditeur suivant. Enfin, précédent, pardon. Laurent, je pense qu'en fait, on a passé une première semaine avec des courses entre guillemets de classiques et on a déjà les Froome et puis enfin les deux prétendants à la victoire finale qui sont déjà devant. Donc j'ai peur en fait que mardi, si vous voulez, comme disait votre auditeur précédent, ils assomment, ils confortent encore plus leur avance. Et à mon avis, je ne vois pas. Ils ont juste à gérer leur écart et je vois pas, si vous voulez, d'autres coureurs pouvoir les inquiéter par la suite. C'est un peu défaitiste, mais franchement.
Oui, mais sûr. En fait, oui. quand tu parles de ils vont gérer, c'est-à-dire tu penses à Froome et à Contador.
Ouais, l'équipe.
Quintana, Valverde ou simplement l'équipe de Froome.
Non, mais Froome, moi pour la victoire finale, Froome en fait par rapport à Quintana, je pense qu'il va essayer de le suivre ou de limiter la casse, mais la course, ça va être une gestion de la course jusqu'à la fin du tour. À mon avis, je vois pas. C'est pour ça qu'on le voit serein, Froome. Il est très habile sur les pavés. Enfin, déjà au bout d'une semaine, si vous voulez, où il y a que des classiques et tout, il est déjà devant. Alors que c'est pas vraiment son terrain de prédilection, mais en fait, ça démontre que c'est un coureur surtout qui est très très en forme. Et vous le savez mieux que moi, un coureur qui est très en forme, même si c'est un grimpeur, il peut passer partout. Hein. Et là aujourd'hui, il démontre que ben il est dedans. Oui.
Oui, non. Excuse-moi.
Il est au-dessus du lot et en fait, voilà, les Français, je pense qu'ils sont à leur niveau. Nibali, il est aussi à son niveau par rapport à l'année dernière. Mais lui, il est vraiment au-dessus, quoi.
Oui, mais je pense que quand même, les Espagnols dans les Pyrénées vont mettre le feu pour essayer de déstabiliser Froome. Après, ils vont essayer. Je l'espère, je dis bien, parce que sinon,
j'espère, mais je pense que mardi. Je pense que mardi, il peut mettre un grand coup, Froome, mais en fait...
Non.
Et tu vas pas nous gâcher le tour, Alain,
on a pas écrit comme ça, le scénario.
Non.
Le scénario, c'est suspense jusqu'à Paris.
Comment ?
C'est-à-dire, le scénario du tour 2015, on l'a écrit, on sait comment ça va se passer, il va avoir un super suspense jusqu'à
l'Alpe d'Huez. Oui, pour les auditeurs, j'espère bien.
Mais non, pour la course, mais même pour la course, ça va être beau, ça. Et si, non, mais c'est vrai que je te rejoins. Si l'équipe Sky et From mettent déjà tout le monde à l'heure mardi.
Au bout d'une semaine, au bout de cette fin de semaine, ou alors c'est pas vraiment le terrain de prédilection de From, hein, on est d'accord. Je veux dire les pavés, les bordures et ainsi de suite. Mais vous avez tous les autres qui se prennent des coups de bordure, des coups de vent, qui tombent par terre. Lui, il est toujours sur le vélo. Et il est en jaune, donc ça montre quand même que c'est quelqu'un qui est très en forme, qui voit clair et qui voilà quoi. Donc je pense que et après les autres, ben ils sont faibles entre guillemets quoi. Donc
non, je fais attention. La Movistar, Valverde, Quintana, ils ont fait qu'une erreur. Bon, ça, ils ont payé cash, mais la première erreur, le deuxième jour avec le coup de bordure.
Sinon,
je pense qu'ils sont en forme. On l'a vu au chrono. Oui, mais bon, ils attendaient pas comme ça et au chrono ils étaient
là. Un gars comme From qui est devant, qui fait attention à tout ça, qui fait gaffe au coup de vent, machin truc. Alors c'est des gens qui Valverde s'est déjà fait piéger par un c'est quand c'est les dernières où il y a des vents.
C'est son problème, les bordures, ouais. Et la patte des meilleurs. Eh ben c'est ce que dit Cyril, c'est le gars qui est là pour gagner le tour, il doit être vigilant tous les jours et toutes les secondes.
Donc voilà, jusqu'au bout de la
From l'année dernière, on a vu qu'il n'était pas dans l'allure dès le départ, puisque équipe n'était même pas là pour le remonter, le poser devant. Il était sans cesse en train de remonter, des va-et-vient, et c'est la preuve que le gars, il n'avait pas la patte. Et malheureusement, après, derrière, ben il y a le Schumann qui lui tombe dessus, mm-hmm. et lui qui tombe par terre. Donc voilà, bon, ben c'est.
Mais là, j'ai bien peur que tout soit bien réglé, qu'il maîtrise en fait son sujet. À mon avis, enfin, j'espère que ça va être un feu d'artifice et que ça va être différent, mais il a quand même une jambe de plus, enfin à mon avis, hein, il va pas trop.
J'attends de voir. On va voir ça.
Je voulais juste saluer Bourgui. J'avais fait plusieurs fois l'édition de la Bourgui. Je sais pas si elle a toujours lieu.
Elle a toujours lieu. Elle est avancée d'une semaine. Elle est le 26, dimanche 26, l'arrivée du Tour d'ailleurs.
Et la Bourgui. Ouais.
Hein, on l'a décalé d'une semaine.
J'invite tout le monde à le faire. Il y a une super, super ambiance et c'est une très belle organisation. Voilà.
Ouais, au Menuire. Et je donne rendez-vous à tout le monde là-haut.
Très bien. Merci.
Merci Alain.
Allez, au revoir.
Au revoir Alain.
La dernière étape, on s'en fout.
La dernière étape, c'est quoi? C'est de défiler sur les champs.
Un défilé de mode. Voilà. Hein, et puis les mecs avec leur coupe de champagne et tout. Mais non.
Non, vaut mieux la Bourgui.
Hein, la Bourgui, c'est vachement mieux.
On a Bruno, 32-16, Lucio, Thierry. Bonsoir Bruno.
Bonsoir messieurs.
Bonsoir Bruno.
Toujours en forme, en pleine forme après une semaine de tour.
Ah ouais, nous on n'a pas transpiré. Et Lucio, par contre, je le sens pas bien là.
Mais non, on n'entend plus Lucio.
Un coup de main, voilà. Il s'est cassé en rat.
Il s'est cassé en rat.
Lucho.
Luc, tu nous entends?
Oui, je suis là.
Alors, bon, écoute bien, Bruno va poser sa question. Vas-y, Bruno. Ouais.
Ma question, je sais pas si ça pourrait se voir, mais j'ai l'impression, et dans ce qu'on voit dans d'autres courses, je pense à la Vuelta ou au Giro, que les étrangers, les Italiens, les Espagnols notamment, arrivent, même lorsqu'ils n'ont pas le même maillot, à faire, on va dire, un peu course commune, course, on va dire, au drapeau, quoi. Et ça, on n'arrive pas à le voir en France, et j'ai bien peur que si on a un Barguil et peut-être un Pinot devant, du moins un Barguil, ben tant pis, c'est chacun pour sa pomme, et on n'a pas cette ferveur nationale. Et vous qui avez, qui voyez avec votre œil, et toi, Lucho, qui a roulé pour une équipe étrangère, comment vous le percevez? Est-ce qu'on pourrait imaginer un jour que lorsqu'on a des Français devant et pour le classement général, on soit un peu plus, peut-être un peu plus, franco-français, quoi?
C'est les circonstances de course qui vont faire qu'il y a des alliances de circonstances. Et c'est clair que les Français, où ils en sont, là, s'ils se retrouvent ensemble devant, il y aura une cohésion entre eux. C'est clair. Après, il y a la victoire finale qui va se disputer comme des adversaires. Mais on peut voir éventuellement, pourquoi pas un Barguil et puis un autre Français qui collabore dans une échappée et un qui peut laisser la victoire à l'autre
une victoire sur le tour, eh oui. Thierry. S'il y a des Français devant, ils vont pas se laisser la victoire à l'un ou à l'autre.
Non, mais imagine que Barguil soit échappé avec un Français qui lui est assez mal placé au général. Bah, c'est de la fiction. Hein. Et ils arrivent ensemble, ils collaborent ensemble. il y en a un qui, Barguil, par exemple, se replace sur le podium, voire même peut prendre le maillot sur cette étape. Tu crois qu'il va pas avoir un concours, du moins une alliance de circonstances,
enfin, bon, de la prendre le maillot.
Eh ben oui, non, mais bon. Imagine, il est pas loin, j'imagine. Il est pas loin. C'est de la fiction, mais moi j'aime bien rêver de temps en temps.
Oui, si tu as envie de rêver, rêve.
Eh ben oui, le rêve,
c'est révélateur ce que tu dis, Lucho, parce que j'ai l'impression que chez les Italiens ou chez les Espagnols, eh bien, dans des circonstances comme tu l'évoques, Bourgui, ça, ils se posent pas de questions. Eh ben voilà, à toi le maillot, alors, ou à toi le gain de place, et à moi l'étape, et on y va, et à bloc. Alors qu'en France, eh bien, j'ai l'impression que les deux, ils se regarderaient. Et tout compte fait, ben ouais, ben je veux tout et on va moins loin. Quoi. On a moins peut-être cette, je sais pas, cet esprit-là. Non, quoi. Je sais pas.
Ils auraient à gagner tous les deux. Et je pense
déjà, on peut pas. On marque.
Il y a des
mecs
intelligents, ils le feront.
On peut pas le savoir parce qu'on en a jamais eu l'occasion jusqu'à maintenant. Donc.
Bon.
Donc il faudra le voir cette année. Tu vois.
Voilà. Ouais,
j'adore le rêve. J'espère. Le rêve, la fiction, c'est.
J'espère.
C'est l'aventure.
Dans les prochains jours, peut-être. Allez.
Dans les prochains jours. Allez, on va croiser les doigts.
Ça va se passer ou pas?
On verra. Après, on fera un débat là-dessus.
Ben voilà.
Merci, Bruno.
Merci à vous. Allez, bonne continuation. À très vite.
Merci, Bruno.
À très vite. Et pensez, faites-nous rêver pendant 15 jours. Là.
Ah ben, commence par mardi. Allez, pourquoi pas. Hein
pourquoi pas.
C'est une bonne nouvelle, Lucho.
Oui.
Tu vas pouvoir y aller.
Ouais, et je peux faire passer un petit message.
Voilà, j'étais sûr. Tu voulais partir avant la fin.
Non.
Maintenant, on te donne l'autorisation.
C'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause. Je souhaite un joyeux anniversaire à mon fils qui a eu 20 ans aujourd'hui. Je l'embrasse très fort. Je suis très fier de lui parce qu'il passe en deuxième année d'école de commerce à Pau. Voilà. Et je suis fier de toi, mon fils. Je t'aime.
Bon, ben voilà. Il n'y a pas que des journées de repos. Il n'y a pas que le Tour de France à Pau. Il y a une école de commerce.
Adorée, qui a eu son bac aussi. Ma petite Emma adorée que j'aime aussi.
Pas de jaloux.
Que j'adore. Voilà.
Bonne route, Lucho.
Merci, c'est gentil.
Sois prudent, Lucho.
Sois prudent. On est de repos. Merci, Thierry. Merci, Lucho. On se retrouve demain, bien sûr. Il n'y a pas de repos. Pour nous, dans quelques instants, on va parler olympisme avec du rugby. Et oui, du rugby à 7. Car le rugby sera olympique du côté de Rio en 2016. Il y aura deux équipes de France. L'équipe féminine, on le savait déjà. Et l'équipe masculine qui s'est qualifiée aujourd'hui.
RMC, Intégral Tour, Martial Fernandez.
L'intégral tour jusqu'à 21h avant de laisser la place à l'after. D'ailleurs, si vous êtes supporter marseillais, appelez-nous au 3216 ou alors vous avez le hashtag RMC Live aussi pour nous poser vos questions, nous donner votre avis sur le mercato marseillais et le dernier départ en date, celui de Rod Fanny par exemple, qui part libre. Il était libre, il n'est pas resté à Marseille, il part du côté d'Al Arabi au Qatar. Mais là, tout de suite, on va parler rugby et Jeux Olympiques.
RMC France Olympique.
Parce que le rugby à 7 est donc un sport olympique, ce sera à Rio l'année prochaine. Il y aura deux équipes de France qualifiées, l'équipe de France féminine, on le savait. Et donc les garçons qui l'ont fait aujourd'hui du côté d'Exeter en Angleterre. Et on est avec un des joueurs de cette équipe de France qui verra Rio, Steve Barry. Bonsoir Steve.
Bonsoir.
Steve, bravo déjà. Hein ?
Merci beaucoup.
Donc non seulement vous êtes qualifié, il fallait passer les quarts de finale, mais en plus vous avez gagné le tournoi contre l'Angleterre, ce qui fait toujours plaisir en rugby, hein, 14-5 en finale. J'imagine que bah, y a du sourire dans votre voix là.
Ouais, on est très contents là. On avait à cœur de gagner les trois tournois pour se qualifier. On aurait pu s'arrêter qu'au quart, mais on voulait vraiment gagner, surtout en Angleterre. Et face à l'Angleterre en finale, c'était superbe.
Alors, c'était important pour vous. Ça représente quoi déjà pour vous qui êtes rugbyman de culture, on va dire. Vous avez joué à 15, bon après à 7. Ça représente quoi pour vous l'olympisme?
C'est un rêve de gosse. Hein. Enfin, depuis tout petit, je pense que tout sportif, rugbyman ou non, on voit les JO à la télé. Enfin, moi, ça me fait rêver. Hein, que je vois un sportif chanter la Marseillaise avec une live comme ça. Quand j'ai eu le choix, par exemple, moi, de continuer à 15 ou à 7, j'ai pas hésité. Quoi, les JO. Ça se refuse pas.
C'est les jeux qui ont fait pencher la balance dans votre choix, en fait.
Ah oui, c'est sûr. Surtout de pouvoir représenter son pays dans ce qui se fait de mieux, donc les Jeux Olympiques. Et là, ce soir, d'être qualifié, c'est tellement, tellement bien.
On a vu tout à l'heure, là, en regardant après le quart de finale, des larmes de votre capitaine Terry Bourawa aussi, juste après la qualif, donc juste après le quart. Ça montrait tout ce que ça représente pour votre groupe, parce que ça n'a pas été toujours simple. Vous avez été un petit peu, on va dire, égratigné. On avait un petit peu des doutes sur votre qualification il y a quelques mois.
Ouais, exactement. Les larmes de Terry représentent très bien ce qu'on a vécu, hein, pour certains. Ça fait 4-5 ans qu'on est là, qu'on essuie un peu des reproches, des comment dire. Voilà, pas beaucoup de personnes croyaient en nous. Et aujourd'hui, décrocher cette qualif en étant champion d'Europe pour la deuxième fois et sans perdre un match, on est très content de réussir. C'est pas une revanche, mais bon, ça prouve qu'on a toujours cru en nous et que en y croyant, on peut arriver au bout.
C'est quoi la hiérarchie mondiale dans le rugby à 7? On connaît un peu celle dans le rugby à 15, mais la France, au niveau mondial, vous vous situez où par rapport aux autres nations?
Cette année, sur le circuit mondial, on pointe, je crois, à la 10e place, ou 11e, quelque chose comme ça, donc ce qui est pas top. Mais on perd pas espoir quand on voit ce qui s'est passé sur le championnat d'Europe et le travail qui va être fait l'année prochaine, cette année, ça ne fait pas peur.
Bon, au moins, vous n'allez pas vous faire chambrer par les filles, parce que il y aura tout le monde là-bas. Non. C'est ça qui est bien.
Les filles, c'est à elles aussi qui ont validé encore plus tôt que nous, qui le méritent amplement.
Rugby à 7, c'est comme rugby à 15. Quand on se qualifie comme ça, la soirée, elle va être longue?
Non, nous, c'est complètement différent. Ça va être 20 sports, récup.
C'est bizarre, j'y crois
très
pas.
Très peu dans les chambres. Non, là, on passe sur une... On passe sur la récup, là on va avoir un petit mois de vacances, donc oui, je pense que ce soir ça a bien fêté ça.
Ouais. Vous êtes à Exeter encore ce soir ou...
Ouais, ce soir à Exeter, et on rentre demain en France.
Bon, on verra dans quel état vous arrivez à Marcoussis demain matin.
Ça marche.
Merci beaucoup Steve Barry, donc qualifié avec l'équipe de France de rugby à 7, et bravo encore.
Très bien, merci encore à vous.
À bientôt, bon Steve Barry. À bientôt. L'intégral tour 20h34 sur RMC. L'after, c'est à partir de 21h. Dans quelques instants, d'ailleurs, on fera un petit tour avec Damien Gauziosio sur le Mercato Show. Mais d'abord, on va parler Formule électrique, parce que cette fois, c'est sûr, Paris aura son Grand Prix de Formule E. Formule électrique, ce sera le 23 avril prochain, en 2016. Deuxième saison seulement de ce championnat du monde avec un circuit. Ce sera autour de l'Hôtel des Invalides, en plein Paris, en pleine ville, tracé urbain. Un lieu historique, c'est un peu la particularité. Et on est avec le président de la Fédération Française du Sport Automobile, Nicolas Deschaux. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir.
Alors, ça paraît alléchant comme ça, Nicolas Deschaux, de voir des monoplaces électriques dans un lieu historique autour de l'Hôtel des Invalides. C'est bien pour le sport automobile et pour la France de recevoir un tel Grand Prix?
Oui, c'est très valorisant pour la France de recevoir aujourd'hui une manche du championnat de Formule I. Parce qu'aujourd'hui, ce championnat, on va dire, est à la pointe de la technologie. Et on va dire en second lieu, la présence des deux constructeurs français dans ce championnat va donner aussi une dimension particulière à cette manifestation en France.
Et puis il y a des pilotes français aussi, ce qu'on n'a pas tout le temps en Formule 1, on en a très peu, donc ça aussi c'est intéressant.
Oui, on a de très bons pilotes français, on a Nicolas Prost, on a Jean-Éric qui était en Formule 1.
Hein, oui.
Ah, on a avec Duval, on a Sarrazin avec Venturi, donc aussi on va suivre avec un grand intérêt la performance de nos sportifs français.
Vous pensez que c'est l'avenir, ça, la monoplace électrique, pour attirer encore plus de public?
Aujourd'hui, ce qui est dans la modélisation de la Formule I, il y a une très forte pertinence à retenir que on rapproche quand même le public urbain directement du sport automobile. Et c'est une dimension qui pour moi est importante, parce qu'on raccroche à une dimension populaire. Le sport automobile doit garder cette dimension populaire. Le deuxième élément, c'est que on rend aussi un peu compatible en termes de visibilité ce qu'est le sport l'automobile de demain, avec une automobile à zéro émission et la possibilité de faire ça justement dans un cadre urbain.
Tracé temporaire aussi, hein, pour ces circuits urbains, et développement durable, c'est aussi important. Évidemment, Paris voulait s'y associer. Certains détracteurs, Nicolas, disent quand même ces formules électriques, ça manque un petit peu de vitesse pour l'instant par rapport à la pointe technologique qu'est la Formule 1.
Mais je pense que faut pas tomber dans l'erreur de venir comparer la Formule 1 avec la Formule Ce sont deux produits différents. Moi, je retiens aujourd'hui que la bataille sportive, pour ceux qui suivent le championnat, est très très intense, et aussi intense aujourd'hui que la Formule 1. Après, s'agissant de la performance des voitures, de la dimension du spectacle, c'est un autre spectacle avec d'autres codes. Je rappelle que la Formule 1 a innové avec ce qu'on appelle le fan booster, c'est-à-dire un dispositif qui permet une connexion entre le fan et le pilote directement en course, qui permet de... Bon, vous allez voter pour le pilote de votre préférence, et celui qui a le plus de votes va avoir un avantage technique. Mmh. Voilà, on change un peu les codes, et je trouve que c'est une évolution qui est relativement intéressante dans le monde d'aujourd'hui.
Alors, formule électrique aux Invalides le 23 avril prochain, je le répète, hein, en 2016. Nicolas Deschaux, président de la Fédération française du sport automobile avec nous. Nicolas, quand on voit comme ça un Grand Prix de Formule 1, on se dit, à Paris on a ça, pourquoi en France on n'a toujours pas ce Grand Prix de Formule 1 cette fois? Qu'est-ce qui nous manque encore là-dessus?
La Formule 1, elle obéit, je l'ai répété plusieurs fois, à un prérequis. Il faut d'abord un volontarisme d'État très fort. Aujourd'hui, mener un Grand Prix sur le plan financier, c'est une modélisation qui peut pas être supportée entièrement par un acteur privé. Il faut un volontarisme de l'État très fort. La deuxième chose, il vous faut aussi des partenaires privés à un niveau important. Et dans un contexte où aujourd'hui, la Formule 1 et les Grands Prix sont dans une concurrence très forte. Il n'y aura pas échappé qu'on est a priori sur un dispositif à 21 Grands Prix l'an prochain. Donc la concurrence est très forte, donc les prix sont relativement élevés. Et aujourd'hui, sur le prérequis nécessaire, qui est de dire vraiment, à partir du moment où on veut un Grand Prix, il vous faut d'abord une enveloppe financière très forte. Sur ce prérequis, force est de constater qu'on l'a pas en France aujourd'hui.
Et sur la formule électrique cette année, pour le championnat du monde, il y avait 11 Grands Prix. Donc c'est vrai que pour l'instant, il y a moins de villes. Mais bon, il y avait quand même des sacrées villes, hein, quand on voit où c'est passé. Notamment Londres ou Buenos Aires, Berlin aussi, Pékin et Berlin. Berlin aussi, oui, les quatre. Donc ça...
J'étais à Pékin pour la première, donc j'ai pu me rendre compte justement, quelque part, du succès que ça a pu être dans cette ville. À la fois, il y avait des gens, à la fois, il y avait un enthousiasme autour de cette nouvelle formule. Donc aujourd'hui, c'est aussi un démarrage. On est sur une saison 2, donc je pense qu'il faut éviter les comparaisons un peu hâtives avec la formule 1.
Bah, ce sera le 23 avril. Tiens, et en parlant de phénomène électrique, pour la première fois hier, Nicolas Deschaux, il y a un avion électrique qui a traversé la Manche. Comme quoi, ça progresse aussi. Hein.
Exactement. Voilà. L'intelligence humaine n'a pas de limite, et le sport automobile, des fois, est un condensé de cette intelligence. Et je pense que la formule électrique et ce Grand Prix, on sera une démonstration.
À bientôt, Nicolas Deschaux.
À très bientôt. Au revoir.
Allez, 20h40 sur RMC, l'intégral tour jusqu'à 21h. Avant d'ouvrir notre page foot, quelques rappels juste pour vous dire que Djokovic, 9e titre du Grand Chelem aujourd'hui, il a battu Federer en finale du tournoi de Wimbledon, 7-6, 6-7, 6-4, 6-3. Christophe Lemaitre, plus rapide que Jimmy Vico sur le 200 mètres des championnats de France à Villeneuve-d'Ascq, 20 secondes 28 contre 20-42. Renaud Laville est nul et champion de France avec un saut à 5-85, mais 3 échecs à 6 mètres. Et puis on vient d'en parler, l'équipe de France de rugby à 7 chez les garçons, qualifiée pour les Jeux Olympiques de Rio comme les filles, et ce sera l'année prochaine. Dans un instant, tout sur les transferts et Roland Courbis avec nous.
RMC Intégral Tour, Martial Fernandez.
L'intégral tour jusqu'à 21h. Après, ce sera l'after avec un thème. Appelez-nous au 3216 ou alors sur le hashtag RMC Live, le thème de l'after. Notamment, que doit-on faire pour améliorer la situation de l'Olympique de Marseille avec un mercato, on va dire, très pauvre pour l'instant. 3216 ou alors le hashtag RMC Live. Je vous donne juste un résultat aussi avec le PSG qui joue un petit match amical contre une équipe de Détroit autrichienne. Équipe plutôt B, hein, voire mixte du Paris Saint-Germain. Victoire 3-0 avec deux buts d'Augustin et un de Aurier face à cette équipe autrichienne.
RMC, le Mercato Show. Le Mercato Show.
Bonsoir Damien Gozioso.
Bonsoir Martial, bonsoir à tous.
Et puisqu'on parle du Paris Saint-Germain, les négociations qui ont commencé pour faire venir Angel Di Maria.
Et c'est une information RMC Sport, le PSG a ouvert les discussions avec Manchester United pour s'offrir l'Argentin. Les Red Devils ne sont pas contre un départ de Di Maria. Une offre avoisinant les 65 millions d'euros devrait satisfaire les dirigeants mancuniens. Mais le PSG souhaite d'abord se mettre d'accord avec le joueur lui-même et son agent avant de formuler une proposition. proposition. Di Maria souhaiterait obtenir un salaire de 12 500 000 euros net annuel, ce qui en ferait l'un des mieux payés du PSG aux côtés de Zlatan Ibrahimovic ou de Thiago Silva. Une demande encore trop élevée pour Paris qui a entamé des négociations pour un salaire autour de 10 millions d'euros.
À Montpellier aussi, ça pourrait bouger. C'est Anthony Mounier qui a des envies de départ.
Et ça tombe bien puisque le Montpellierin a été supervisé hier soir par l'Ajax Amsterdam, alors que Montpellier a battu Mende 7-0 en amical. En tout cas, si Anthony Mounier souhaite quitter la France, la piste néerlandaise semble être la plus probable pour lui.
Eh ben, on a Roland Courbis avec nous dans deux minutes. On va lui poser la question. L'Espagne, maintenant, est Ciro Immobile prêté à Séville.
L'attaquant italien du Borussia Dortmund rejoint le FC Séville pour une saison. C'est un prêt payant qui avoisine les 3 millions d'euros. Arrivé du Torino à Dortmund en début de saison dernière, Immobile ne s'est pas imposé en Allemagne. Seulement 9 titularisations en championnat. Il n'a inscrit que 3 buts sous les couleurs de Dortmund.
L'Angleterre avec Sterling qui se lance dans un bras de fer pour pouvoir quitter Liverpool.
Tous les médias britanniques annoncent que le joueur ne prendra pas part au stage de pré-saison en Asie. Il veut être transféré à Manchester City. Le club vient de proposer 49 millions, une offre que Liverpool serait prête à accepter, selon les dernières informations.
Et puis toujours à Liverpool, on pourrait échanger Mario Balotelli.
Et oui, lui non plus n'a pas pris l'avion pour le stage de pré-saison. Mais là, c'est le club qui a décidé de le laisser en Angleterre. Un geste qui laisse penser que Liverpool cherche à s'en séparer. Liverpool qui aimerait bien faire venir Mario Gomez qui joue à la Fiorentina. La Fiorentina qui voudrait bien récupérer donc Super Mario. Le gros problème dans cette affaire, c'est le salaire de Balotelli, très élevé, trop peut-être même pour la Fiorentina.
Et puis Ronaldinho qui retrouve le Brésil.
À 35 ans, il a signé pour 17 mois avec Fluminense. Il avait déjà joué dans l'autre club de Rio, Flamengo. Mais Rony a expliqué qu'il était excité à l'idée de découvrir le Maracanã, puisque lors de son précédent passage au Brésil, le mythique stade était en travaux.
Merci beaucoup Damien Gozioso. Évidemment, le Mercato Show, on en reparle dans l'after dans quelques minutes avec toutes les rumeurs et toutes les infos. Transfert, on a Roland Courbis avec nous. Salut Roland.
Oui, salut à tous.
Roland, l'entraîneur de Montpellier, là on t'a pour ça aujourd'hui avec nous. Montpellier qui a joué hier, on va dire petit galop d'essai, hein, victoire 7-0. Amende, bon.
Ouais, bon, on a bien clôturé le stage par une opposition, je dirais pas un match, par une opposition d'une équipe de Mende qui est moyenne et qui avait repris l'entraînement que seulement depuis 2 jours. Ouais. Donc ceci explique
ils étaient un peu fatigués à la fin du match face aux pros, quoi. Si j'ai bien compris aussi, t'es pas vraiment un fan des matchs amicaux, toi, dans les préparations, de toute façon, parce que pour Montpellier, il y en a que deux, hein. Il y a celui-là, il y a Mende, et puis il y en aura un autre dans une dizaine de jours, hein, c'est
ouais,
ça.
Ouais, mais il y a beaucoup d'opposition contre Toulouse. Entre nous, ce qui pour moi, dans mon esprit, remplace les matchs amicaux avec la possibilité de faire jouer beaucoup plus de joueurs et de diminuer les risques de blessures comme je vois beaucoup dans des matchs amicaux.
Alors Roland, avec toi on va parler un peu du mercato de Montpellier. Déjà, dernière arrivée, Riyad Boudbouz qui a signé pour 4 ans. C'est un garçon que tu suivais depuis très très longtemps, ça.
Ben, depuis qu'il est à Sochaux, et ça fait donc très longtemps parce que j'ai joué 3 ans à Sochaux, et par affection, quand j'ai joué dans un club, ben, je suis évidemment ce qui se passe dans ce club, même quand j'y suis parti.
Et d'accord, qu'est-ce qu'il peut vous apporter du coup, Riyad Boudbouz?
Ben, disons que bon, on a récupéré pour nous un bon joueur, gaucher, qui a beaucoup de qualités, qui a pour moi encore une marge de progression pouvant lui permettre de continuer à progresser. On a Mounier dans l'instance de départ, même si j'aimerais bien pouvoir faire jouer tous les deux en même temps. Et donc, Bastia, dans cette affaire-là, se sauve vraisemblablement. Mounier est content, nous sommes contents, mais tout le monde est content.
Ouais. Tu parles d'Anthony Mounier, là. Il a envie de partir, lui? Qu'est-ce qu'il te dit?
Non.
Vous avez eu des discussions?
Pas une envie de partir. C'est un accord que Anthony a avec le club depuis pas mal de temps. Il lui reste un an de contrat. Et compte tenu de sa saison et compte tenu que, bon, je sais pas si on réalise tous les bons joueurs qu'il y a en Europe, il termine cinquième des attaquants les plus dangereux d'Europe. Il est sur la liste de beaucoup de clubs. Donc pour le moment, bon, il n'y en a pas beaucoup qui se manifestent.
L'Ajax, ils se sont manifestés?
Oui, un petit peu, mais bon, pas...
Un petit
pas,
peu.
Pas avec précision.
D'accord.
Je sais, pour discuter avec lui, qu'il y a quand même un minimum de 4 clubs anglais qui l'appelle régulièrement, et puis lui, ben, il se décharge de ça, et c'est son agent qui s'en occupe. Pour le moment, aucun nom a été ébruité. Et Loulou, ben, il attend tranquillement qu'il y ait un club qui l'appelle pour pouvoir tomber d'accord, puisque la traditionnelle expression « bonne sortie », il a son bonne sortie de Loulou, donc on peut quand même penser qu'il y a peu de chances, malheureusement,
qu'il reste
avec nous.
Brian Dabo, tu parlais de bonne sortie, ça en est où cette histoire? Juste un truc, Brian Dabo, l'OM qui se fend d'un tweet officiel aujourd'hui, d'un communiqué en disant que l'OM n'avait fait aucune proposition pour Brian Dabo. Qu'est-ce que tu me...
C'est totalement faux, dans le sens que, avec Dabo, c'est clair, s'il veut aller à l'OM ou à un autre club, il y va, mais c'est Loulou qui décidera. Donc moi, je lui déconseille, ou plutôt je lui conseille, de continuer sur la lancée de la saison dernière, à faire une très bonne saison, et à partir de Montpellier que dans un an. Après, entre conseiller quelqu'un et décider ou interdire, ça non, j'ai pas le pouvoir ni la position à Montpellier de pouvoir décider ou donner des interdictions. Ça, c'est Loulou.
Mais j'ai pas,
moi,
j'ai...
je conseille, je donne mon point de vue autant à Dabo qu'à Loulou, et après, c'est pas moi qui décide.
Mais j'ai pas bien compris, Roland Courbis. Dabo, il a eu une proposition de Marseille, vous en avez reçu une, vous, au
oui,
club?
Oui, nous en avons reçu une qui est donc... Alors maintenant... Que l'OM ait changé d'avis. Bon, c'est pas la première fois qu'un club change bizarrement d'avis dans une période de transfert. Hein. Donc, il y a eu cette fameuse liste de Bielsa où Dabo est dans la liste de Bielsa. Ou alors, maintenant, il faut dire était. Mm-hmm. Hein, on s'est quand même conjugué au présent et au passé. Et donc, la somme qui nous était proposée était quand même une somme qui ressemblait quand même à quelque chose de ridicule compte tenu des prix que nous soyons pauvres et que nous fassions que nous luttions contre les riches. Ok, mais c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on peut être considéré comme très très pauvre. On n'est quand même pas très très pauvre.
Ils se sont moqués de vous, coach, c'est ça que tu me dis?
Non, je n'irai pas jusque-là. Ils n'ont pas été très généreux.
Mm-hmm. Bon, et pour l'instant, apparemment, ils veulent plus rien donner du tout.
Je suis le plus heureux.
Ouais, tu veux le garder, donc tout va bien. Toi, ce que tu crains, si j'ai bien compris aussi, c'est d'avoir, j'allais dire, la jurisprudence tambouline, d'avoir un départ fin août qui vient bouleverser le dernier jour.
Je
ne
suis pas là pour me plaindre, bon, Loulou le sait. Mais bon, si on peut se séparer des joueurs importants qui doivent partir, que ce soit Mounier, que ce soit El Khaoutari, que ce soit Congré, si on doit s'en séparer et qu'on peut s'en séparer dans les 15 jours à venir et non pas le 28 ou le 29 août comme ça s'est passé avec Stambouli, ben évidemment c'est mieux pour moi. Et si c'est mieux pour moi, c'est mieux pour mon staff. Si c'est mieux pour moi et mon staff, c'est mieux pour le club, pour l'intérêt du club, pour pouvoir se préparer du mieux. Parce que c'est pas que je me plains, je signale une complication supplémentaire, c'est tout.
On a Clément, coach, au 32-16, oui, qui veut te poser une petite question. Salut Clément.
Salut, et c'est mieux pour les supporters.
Salut Clément.
Ça va, coach?
Ouais, ça va, on s'accroche.
Ouais, ben non, moi c'était simplement pour dire que surtout qui que ce soit qui parte et à quel moment, ça serait bien que malgré que les sommes soient petites, que pour une fois on les réinvestisse, parce qu'on a l'habitude, nous, de rentrer les sous et de pas les réinvestir, donc ça serait cool de voir arriver. Alors, je sais pas qui, hein, j'ai pas de nom, je sais pas si, d'ailleurs, vous y avez réfléchi un peu, mais ça serait bien de voir quelques nouvelles têtes, quoi, parce que nous, on a...
Il y en a quelques-unes quand même, Roland, là, qui ont signé.
Pour le moment, il y en a quatre.
Ouais, Roussillon aussi, en plus de Riyad Boudbouzg, Rémi et Ben Saïbani, hein, c'est ça?
Oui. Non, mais après,
il y en aura d'autres.
Mais il y a une différence entre voir les têtes de nouvelles recrues aux intersaisons, avec évidemment des noms qui peuvent défrayer la chronique, et ça, malheureusement, c'est pas dans les possibilités de Montpellier. Montpellier n'est pas le seul. Et après, il y aura les têtes sur le terrain qui, peut-être, bref, seront plus des surprises qu'autre chose et désagréables et des agréables,
un peu
plus loin, surprise. Donc notre objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait un équilibre financier et sportif, et que l'on puisse avoir une équipe grâce à la complémentarité de nos joueurs, la qualité de nos joueurs et les progrès de nos joueurs, parce que il y a aussi, je sais pas ce que tu en penses, il y a aussi des nouveaux joueurs qui sont vraiment nouveaux, avec des noms nouveaux, il y a aussi des nouveaux joueurs que ce sont le niveau qui font que ce sont des nouveaux joueurs. Dabo, pour moi, c'est un nouveau joueur. Congré et Mounier, ce sont des nouveaux joueurs depuis un an. Donc, Martin, c'est un nouveau joueur. El Kaoutari, c'est un nouveau joueur. Plus les jeunes qui progressent. Donc, ça, eh ben, nous en avons la conviction. Nous en avons la certitude et nous essayons justement de démontrer qu'on est capable de faire progresser les joueurs, ce qui est tout simplement notre boulot. Donc si après, avec ces progrès, on arrive à trouver une bonne complémentarité et malgré les départs de joueurs importants, on arrive déjà à pas s'affaiblir et à pas affaiblir le niveau de notre équipe, à ce moment-là, on pourra faire une saison et faire plaisir à nos supporters. Ou déjà, si en championnat, on fait aussi bien, on sera très content. Mmh. Et si on peut aller un jour, comme a pu le faire Guingamp, Rennes, en finale d'une coupe, on se dit pourquoi pas nous. Donc ça peut nous arriver aussi.
Clément, toi qui es supporter de Montpellier, ce serait quoi une saison qui te ferait plaisir?
La même que... Enfin, si, justement, je vais pas dire la même, parce qu'on a envie de voir un peu plus haut, mais voilà, si le top 5, je sais pas, après, ça tout dépendra, je pourrais me prononcer à la fin du mercato pour y voir plus clair, mais après, ce qui nous ferait plaisir, c'est de faire un peu mieux que l'année dernière, quoi. Et juste, je voulais savoir aussi, Diaby, c'est pas dans les tuyaux, coach?
Qui ça?
Diaby.
Dans les tuyaux de quoi? De
quel Diaby? Parce qu'il y en a plusieurs.
Abou
Diaby.
Le grand malade.
Pour le boulot de notre staff médical. Là, ils ont déjà suffisamment de boulot comme ça, t'es gentil. Et je souhaite à ce joueur un propre rétablissement de toutes les organes. Sincèrement, j'ai suffisamment t'es gentil. Tu nous appelles en plus, tu as bon goût, tu écoutes RMC. Mais là, sincèrement, tu vois.
Bon, voilà, tout le monde n'est pas d'accord.
Toi qui as l'habitude de relancer, je me suis dit, on ne sait jamais.
Non, mais attends, que je puisse avoir une certaine expérience, je l'espère, je le pense. Un peu de compétence aussi. Mais attends, après des dons de magicien, je les ai pas, je te promets, je les ai pas, et je regrette, je regrette, mais je les ai pas.
Nous on pensait que tu les avais, c'est pour ça que je demandais. Hein.
Merci Clément de nous avoir au 32-16. Et coach, on va te dire au revoir, merci, et puis on te retrouve très vite sur notre antenne. Juste sur l'hashtag RMC Live, coach, oui. King Lacazette qui nous dit, je conseille à Courbis de prendre Benzia et Ghezal. Voilà. Ben. Tu veux y aller?
Bah oui, il n'a pas mauvais goût. Et celui aussi, Yatara, qui a signé au Standard, je te promets qu'il est pas mal non plus.
Merci coach.
Merci à vous.
À très vite. À bientôt coach. Guillaume Laniel. Salut Guillaume.
Oui, salut Martial.
De l'after. À partir de 21h, l'OM au programme.
Ouais, l'OM exactement. Il s'est pas passé grand chose depuis le retour de Marcelo Bielsa lundi dernier. Pas grand chose au niveau du mercato. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? On se posera la question. On parlera de Bordeaux, hein, deuxième saison pour Willy Sagnol. Là aussi, au niveau du mercato, ça bouge pas énormément. On parle de la possible arrivée de Johan Gourcuff. Est-ce que Diego Rolland lui partira? On s'intéressera au gérant de Bordeaux et puis les dernières infos transfert, le mercato show, sans oublier le quiz et foot fiction. Voilà pour le programme. On vous attend nombreux évidemment, le 32-16 et le hashtag RMC Live. Nous sommes ensemble pendant 2 heures pour l'after, 21h, 23h.